Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il claque la porte et coupe le cordon. Emmanuel Macron démissionne du ministère de l'économie. Il n'annonce pas sa candidature à l'élection présidentielle. Mais pour François Hollande, c'est un nouveau rival de taille dans la course à l'Élysée.
Vous entendrez l'ancien ministre et nous verrons dans quelle situation délicate il met François Hollande, pourtant à l'origine de sa fulgurante ascension politique.
La rentrée des professeurs aujourd'hui, un jour avant celle des élèves. Rentrée marquée cette année par la réforme du collège. Vous entendrez des jeunes professeurs plutôt inquiets.
À l'étranger, peut-on croire dans la trêve annoncée par les États-Unis, trêve conclue entre les deux alliés turcs et kurdes. Ankara n'a rien confirmé pour l'instant.
Et nous retournerons au Gabon, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, une attente qui fait monter les tensions. C'est son moment médiatique, une fenêtre entre les passes d'armes de la droite le week-end dernier et la rentrée de Marine Le Pen samedi. Emmanuel Macron a démissionné hier après des mois de rumeurs de départ, après avoir lancé son propre mouvement au printemps, En Marche. Il quitte donc le ministère de l'économie sans toutefois annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Sur le plateau de TF1, hier soir, il a expliqué pourquoi il ne pouvait rester plus longtemps au gouvernement.
Le président de la République a posé un cadre clair le 14 juillet dernier. Compte tenu du cadre qu'il avait posé, j'avais le choix entre arrêter de porter une vision, un projet nouveau, me taire, ne plus avancer, ou le mettre en difficulté, voire conduire à une crise gouvernementale qui l'aurait conduit à me démissionner, renvoyer du gouvernement. Donc la conclusion logique, au fond, compte tenu de cette ambition légitime pour le pays, de cette volonté de faire et du profond respect que j'ai à la fois pour les institutions et pour le président de la République lui-même, c'était d'en tirer les conclusions.
Du respect pour François Hollande, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron lui doit en effet beaucoup. Il a commencé son ascension politique fulgurante à ses côtés, comme conseiller économique à l'Élysée, avant de prendre un ministère en 2014. Mais aujourd'hui, le cordon semble bel et bien coupé et Cyril Gradiani, c'est un coup rude pour François Hollande.
Et si l'erreur de François Hollande était de ne pas avoir démis de ses fonctions son turbulent ministre le 14 juillet, au surlendemain du meeting de ce dernier à la Mutualité? En se débarrassant de Macron avant l'été, François Hollande pouvait le faire tomber aux oubliettes, mais il n'a pas voulu. Le chef de l'État n'a jamais pu admettre que son ministre, celui à qui il a mis le pied à l'étrier et qui, selon lui, lui doit tout, s'était affranchi. C'est Emmanuel Macron qui a donc donné le tempo et a pris le dessus. Aujourd'hui, François Hollande se retrouve débordé sur sa gauche avec les multiples candidatures de Montebourg, Mélenchon entre autres, sur sa droite avec Emmanuel Macron, car même s'il ne le dit pas, tout porte à croire qu'il se prépare à 2017. Pour le chef de l'État, après le départ de Christiane Taubira, c'est à nouveau un rétrécissement de sa majorité. François Hollande est acculé, peut-il prendre le risque d'être candidat contre Macron si celui-ci décide d'y aller? Fin tacticien, le chef de l'État a toujours su se sortir des situations même les plus inextricables, mais là, sa marge de manœuvre est très limitée.
Alors Emmanuel Macron peut-il apparaître comme un candidat crédible à la présidentielle? Quels sont ses soutiens? Quel bilan peut-il revendiquer? Une loi porte son nom, la loi Macron, officiellement loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle comporte des réalisations tangibles, Jean-Marc Chardon.
On a souvent présenté la loi Macron comme une loi fourre-tout, ce qui d'emblée l'a rendue peu lisible, avec quantité de textes disséminés dans plusieurs secteurs d'activité et de portée très inégale. Quoi de commun entre les auto-écoles et la justice prud'homale, le transport par autocar et l'ouverture des commerces le dimanche. Un trait permet pourtant de les relier. Une productivité jugée moyenne ou médiocre, la possibilité d'animer l'activité professionnelle de secteurs en manque de développement ou soupçonnée de perpétuer une économie de rente. C'est du moins l'argument avancé par le ministre démissionnaire. Les résultats, s'ils ne sont pas considérables, ne sont pas négligeables pour autant. 1500 emplois dans le transport d'autocar, mais également un gain pour les clients. Les ouvertures dominicales n'ont certes pas déclenché une ruée des consommateurs, mais ce sont quelques milliers d'emplois qui ont été créés en quelques mois. D'autres mesures s'apprécient autrement. Ainsi, la réforme des permis de conduire, qui a eu pour effet de réduire les délais d'attente et d'encadrer les pratiques tarifaires. Dans le domaine judiciaire, la loi permet d'accélérer le rendu des décisions de justice, et cela avec des tarifs en légère baisse. Pas de quoi au final donner lieu à des économies substantielles, certes, mais de stimuler des pans d'activité et de réussir à le faire en l'espace de seulement quelques mois.
Emmanuel Macron devrait se rendre aujourd'hui à l'université d'été du MEDEF sur le campus d'HEC en région parisienne, plus en tant que ministre donc, seulement en tant que chef de son mouvement En Marche. Il devrait recevoir un accueil plutôt favorable des patrons. Et une autre démission du gouvernement est passée plus inaperçue hier, celle de Georges Pau-Langevin. Elle rend son portefeuille des Outre-mer pour des raisons personnelles, selon le communiqué de l'Élysée. Elle sera remplacée par la réunionnaise Erika Barreit. Sortie de crise pour les producteurs de lait et Lactalis, leur principal acheteur en France. Un accord a été trouvé hier sur une hausse du prix de la tonne. La FNSEA a appelé ses militants à cesser les actions. Une belle promesse pour Alstom. Le constructeur ferroviaire français décroche le marché du futur TGV de la SNCF. La compagnie vient de l'annoncer. Un partenariat d'innovation sera présenté la semaine prochaine pour élaborer le train à grande vitesse de demain. Un jour d'avance, les professeurs font leur rentrée aujourd'hui, à la veille de celle des élèves. 860 000 enseignants attendus dans leur établissement et pas mal de nouveautés cette année. Des programmes réécrits, du CP à la 3e et la fameuse réforme des collèges, toujours contestée. Un appel à la grève est d'ailleurs déjà lancé pour la semaine prochaine, le 8 septembre. Réforme pas vraiment rassurante pour les tout jeunes professeurs. C'est un reportage d'Hakim Kasmi.
C'est entre excitation et appréhension que Fanny s'apprête à effectuer sa première rentrée comme professeur de biologie dans un collège de Seine-Saint-Denis à Livry-Gargan. Fraîchement sortie de l'école supérieure du professorat, l'ESPE, elle va se retrouver face à la réforme du collège. Une réforme qui l'inquiète au vu de son manque d'expérience.
La réforme du collège, c'est quelque chose qui est assez complexe. On a été formés donc, dans nos universités, mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, beaucoup à faire. Voilà, se mettre d'accord au sein de l'équipe enseignante. Mais c'est un vrai défi aussi de mettre en place cette réforme. Et je pense que ça va prendre pas mal de temps.
Du temps, mais aussi de l'organisation. Car avec les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, les enseignants vont devoir apprendre à travailler encore plus ensemble. Même si les professeurs ont eu 5 jours de formation pour se préparer à la réforme du collège, cela reste insuffisant pour Christian Chevalier, secrétaire général de l'UNSA.
Ils ont été formés, mais bien évidemment, sans doute qu'il va falloir des compléments, des aides et des appuis. Ça va être le rôle de l'institution à travers les chefs d'établissement et sans doute à travers des modules de formation continue. Et je pense que ça ne concerne pas que les nouveaux enseignants. Je rappelle qu'il y a eu une année de formation à la réforme du collège instituée par le ministère l'année dernière. Et il va falloir venir en appui aux équipes dans les établissements. C'est-à-dire que les EPI qu'on va faire dans l'établissement A seront différents de ceux qu'on va faire dans l'établissement B. Il me semble qu'on doit pouvoir y arriver.
En attendant plus de moyens, l'intersyndicale appelle déjà un mouvement de grève le 8 septembre prochain, juste après la rentrée.
Et rappelons donc ce qu'est cette réforme du collège. Elle introduit l'interdisciplinarité, l'enseignement de plusieurs matières au sein d'un même cours. La réforme avance aussi d'un an l'enseignement de la deuxième langue vivante, en 5e donc. Et puis elle supprime une partie des classes bilingues et elle réorganise l'enseignement du latin et du grec.
8h08, la suite du journal sur France Culture. Amélie Perrier, à l'étranger, les États-Unis veulent croire en un retour au calme à la frontière turco-syrienne.
Oui, Washington affirme avoir obtenu une trêve entre ses deux alliés, la Turquie et les milices kurdes. Ankara a lancé une offensive il y a une semaine contre les djihadistes de Daesh, mais aussi donc contre les Kurdes, considérés eux aussi comme des terroristes par le président Erdogan. Bonjour Lara Mercier.
Bonjour.
Washington annonce une trêve donc, mais Ankara pour l'instant ne confirme pas.
Motus et bouche cousue côté turc en ce qui concerne ce cessez-le-feu. La seule déclaration d'Ankara depuis cette annonce, une demande de retrait des combattants kurdes à l'est de l'Euphrate. Car si les Kurdes profitent de l'instabilité régionale pour essayer d'étendre leur territoire, Ankara veut éviter à tout prix qu'ils ne forment une région autonome le long de sa frontière avec la Syrie. Les États-Unis sont donc dans une situation très délicate puisque deux de leurs meilleurs alliés pour lutter contre Daesh sont ennemis jurés et se livrent à une guerre de territoire à la frontière turco-syrienne. D'un côté, les Américains financent les Kurdes pour lutter contre l'État islamique. De l'autre, ils ne veulent surtout pas fâcher le président turc Erdogan qui vient de faire son retour sur la scène du conflit syrien. Washington veut éviter le moindre risque d'embrasement. Le dossier sera sans aucun doute au cœur des discussions entre le président américain Barack Obama et son homologue turc dimanche prochain en marge du G20.
Merci beaucoup Lara Mercier. Et dans la bataille contre les djihadistes de l'État islamique, le groupe reconnaît lui-même aujourd'hui une lourde perte. Son porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani, a été tué, en croire Daesh, dans la province d'Alep, théâtre de violents combats dans le nord de la Syrie. Al-Adnani, à travers ses communiqués, est considéré comme celui qui aurait réussi à pousser des loups solitaires à l'action en Occident, à commettre des attentats, en France notamment. Le Yémen, victime lui aussi d'un conflit sanglant, d'attentats meurtriers commandités par Daesh, on vous en parlait hier. La Banque mondiale n'a pas attendu la fin du conflit pour chiffrer la reconstruction du pays. Elle l'estime déjà à 15 milliards de dollars. Le Yémen est un des pays les plus pauvres de la péninsule arabique et la guerre l'a plongé dans une crise humanitaire sans précédent. Une si longue attente au Gabon, les travaux de la commission électorale s'éternisent et le pays reste suspendu à l'annonce du résultat de la présidentielle. Qui, du sortant Ali Bongo ou de son rival Jean Ping, a remporté le scrutin? On devrait le savoir aujourd'hui, mais les heures d'attente échauffent les esprits. Le récit à Libreville de Sébastien Némette.
Tout au long de la journée, le dispositif sécuritaire n'a fait que se renforcer dans la capitale. Les effectifs des militaires, policiers et gendarmes n'ont cessé d'augmenter en divers points stratégiques, tout comme le nombre de véhicules anti-émeutes. En soirée, le déploiement était même impressionnant. Pendant ce temps, les partisans de Jean Ping et d'Ali Bongo rassemblaient leurs militants dans leur QG. L'ambiance est même devenue électrique chez l'opposant qui a décidé d'aller parler directement à ses partisans. Il leur a demandé de rester mobilisés mais sans manifester. La ferveur est alors retombée et beaucoup sont alors rentrés chez eux. Côté politique, pouvoir et opposition ont continué leur combat de boxe avant les résultats. Le ministre de la Communication a lancé la première salve en accusant Jean Ping d'être mêlé à des tentatives de déstabilisation venues de France et de Côte d'Ivoire. Dans un souci d'apaisement, il a toutefois promis d'attendre les résultats de l'élection pour présenter ses preuves aux autorités judiciaires. L'opposition a répondu qu'Alain-Claude Bilibinzé pleurnichait parce qu'il avait perdu l'élection. Pour Jean-Gaspard Ntoutoumaï, il s'agit d'histoires inventées de toutes pièces pour mettre en cause un adversaire. Des arguments faciles et un peu courts, conclut-il.
Sébastien Némette, l'envoyé spécial de RFI à Libreville, la capitale du Gabon. Climat toujours plus tendu aussi au Brésil, où le Sénat devrait décider aujourd'hui de la destitution ou du maintien en fonction de la présidente Dilma Rousseff. Les débats hier à la Chambre ont pris une tournure théâtrale, des larmes, des cris, des références à Dieu. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour se faire réélire en 2014. Un coup d'État constitutionnel, dénonce ses soutiens. Sa destitution marquerait la fin de 13 ans de gauche au Brésil. Un décompte quotidien est effrayant. Hier en Méditerranée, environ 3000 migrants ont été secourus au large de la Libye. Ils s'ajoutent aux 6500 de la veille et à tous les autres qui risquent leur vie chaque jour sur des embarcations de fortune pour rejoindre l'Europe. Pour récupérer ces candidats à l'exil, des navires d'ONG, de la marine italienne ou encore de l'opération Sophia, l'opération anti-passeur. Des passeurs prêts à tout pour continuer leur trafic très lucratif. L'équipage du Bourbon Argo, un bateau affrété par Médecins Sans Frontières Italie, peut en témoigner Béatrice Duguay.
Ce navire qui patrouille depuis plusieurs saisons en Méditerranée vient d'être la cible d'un événement grave et encore nébuleux. Il a essuyé des tirs en fin de semaine dernière. Passeurs ou autorités libyennes, ça n'est pas clair pour l'instant. Si la zone est aussi tendue, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, 4,5 milliards d'euros par an pour les passeurs libyens et les filières. Estimation donnée par Europol, c'est le tiers du PIB du pays, plus de la moitié de l'économie de ses ports. Le trafic se développe également ces derniers mois sur l'Égypte, où les passeurs financent la rénovation de bateaux de pêche pour convoyer ensuite par milliers des candidats à l'exil vers l'Europe. L'opération Sophia, opération européenne anti-passeurs, s'efforce depuis environ un an de combattre les trafics, de démanteler les filières. Ces unités, 5 navires, 3 hélicos, 3 avions, ont permis de sauver des vies d'abord, et puis d'arrêter 87 passeurs ou trafiquants présumés, 263 bateaux saisis, gonflables ou épaves en bois, des embarcations précaires, aussitôt détruites de toute façon pour ne pas être réutilisées. L'opération a ses limites, elle ne concerne que les eaux internationales, où les passeurs prennent soin de ne pas trop s'aventurer. Impossible ensuite de les poursuivre dans leurs eaux territoriales.
Béatrice Duguay. Et l'on termine ce journal au sommet du monde, sur l'Everest. Les autorités népalaises ne plaisantent pas du tout avec l'ascension du toit de la planète. Un couple d'Indiens vient de se faire interdire pendant 10 ans l'escalade de l'Everest. Les deux apprentis alpinistes qui avaient affirmé avoir atteint le sommet en mai dernier ont fait l'objet d'une enquête. Conclusion, ils ont falsifié leurs photos et n'ont apparemment jamais atteint les 8848 mètres. Et oui, ils ne pourront pas retenter l'aventure donc avant 10 ans. On termine par le temps de ce mercredi. L'été de retour, une belle journée ensoleillée quasiment partout et le thermomètre remonte. Les minimales vont de 11 à 17 degrés ce matin. Cet après-midi, on atteindra 24 degrés à Dunkerque, 25 à Quimper, 28 degrés à Paris, 28 aussi à Nancy, 29 degrés à Ajaccio, 30 à Chambéry et 32 degrés pour Avignon, Guillaume Erner.